L'invité du grand entretien de la matinale aujourd'hui, la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les questions de Léa Salamé dans 10 minutes. Intervenez au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Merci d'être à notre micro ce matin. Le président de la République a donc réagi à la crise des migrants de l'Aquarius, rejeté par l'Italie, par Malte, finalement accueilli par l'Espagne. Cynisme et irresponsabilité italienne, a dit Emmanuel Macron, la France faisant valoir que le droit était de son côté et que l'Italie, en l'espèce, ne l'avait pas respecté. Mais est-ce, d'après vous, une question de droit maritime dont il est question ici, ou de morale élémentaire face à une crise humanitaire ?
Je crois que la réponse est double, c'est-à-dire qu'il y a une question humanitaire. C'est évident, il y a ces gens qui ont risqué ce que nous savons pour effectuer ces traversées avec des objectifs qui peuvent parfois paraître illusoires mais qui pour eux sont essentiels. Donc il y a une question humanitaire. Cette question humanitaire, l'Espagne y a apporté la réponse que nous savons.
Pourquoi pas la France ?
L'Espagne a apporté la réponse que nous savons. Pourquoi pas la France au nom d'une règle de droit maritime qui est celle qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que en mer, vous connaissez parce qu'on l'a dit fréquemment, c'est le port sûr le plus proche qui doit répondre. L'Italie s'étant désistée, il est vrai que l'Espagne apparaît la plus proche. La Corse est en France, mais la réponse de la Corse était une réponse simplement d'accueil, pas une réponse de traitement.
Mais est-ce que ça n'aurait pas pu être...
Je souhaiterais finir,
allez,
s'il vous plaît, Nicolas. L'Espagne apporte une réponse qui est une réponse à la fois d'accueil et de traitement. La France a dit qu'elle serait aux côtés de l'Espagne pour prendre en charge ceux qui arrivent là et qui pourraient bénéficier d'un asile en France. Donc, si vous voulez, la réponse à cette question, c'est une réponse humanitaire à laquelle l'Espagne a apporté, me semble-t-il,
alors,
une solution.
Mais ce n'est pas... C'est l'Espagne qui porte haut les valeurs de l'Europe, a déclaré Hugues Rançon, la République en marche, vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas nous ?
Pourquoi pas nous pour la raison que je viens de vous dire, c'est-à-dire pour la raison juridique qui fait que c'était le port le plus proche.
Oui, bien. Mais enfin, sauf que alors, ça n'est pas
mais
le cas.
Mais je pense que cette réponse humanitaire-là qu'a apporté l'Espagne, réponse au fond que nous allons accompagner, cette réponse-là, elle n'est pas suffisante. Et il y a urgence, urgence absolue à construire une réponse européenne. Le président de la République s'est engagé à dialoguer à ce sujet avec nos partenaires allemands dès la semaine prochaine et au prochain Conseil des ministres européens à remettre sur la table les propositions qui ont déjà été formulées par le président de la République il y a plus d'un an. L'Europe est fautive, et peut-être nous avec d'ailleurs, l'Europe est fautive de n'avoir pas su construire cette réponse qui est, on ne peut pas laisser l'Italie, je rejoins
ce que dit Bernard Guetta,
on ne peut pas laisser l'Italie seule face à cette question-là.
Mais pourquoi ?
Ça n'est pas acceptable.
Mais pourquoi, Nicole Belloubet, 72 heures pour trouver cette position qui est de dire on respecte le droit maritime, merci l'Espagne ?
Eh bien, on respecte le droit maritime parce que logiquement, vous le savez, c'eût été à l'Italie de répondre. Le président du Conseil italien et son ministre de l'Intérieur ont pris la position que vous savez, donc il a fallu réagir ensuite. C'est l'Espagne qui a répondu le plus immédiatement.
Pourquoi ne pas dire, je sais pas, je vous pose la question, que la France a fait un choix politique qui est de ne pas mettre le doigt dans cette question pour éviter d'alimenter l'extrême droite ?
La France, réellement, a fait le choix de solutions de fond. Cela fait plusieurs mois. Alors moi, j'entends ce que l'on peut dire et j'entends les réactions que l'on peut avoir sur la question humanitaire. Il ne faut pas passer sous silence les réactions de fond que la France construit depuis plusieurs mois. Ces réactions-là, vous le savez, elles sont de construire une vraie politique d'asile, d'aller dans les pays africains, je pense notamment au Niger, je pense à d'autres endroits où la France va sur place chercher des personnes qui peuvent prétendre à obtenir le statut de réfugié et qui ont ainsi, qui peuvent venir en France en toute sécurité. La France essaie de construire des politiques d'aide aux pays d'Afrique. La France lutte pour qu'on ait au sein de l'Europe une vraie politique aux frontières, etc. Donc on essaie de construire des politiques de fond. Je crois qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure.
Une dernière question sur ce chapitre, Nicole Belloubet, vous êtes ministre de la Justice évidemment, mais vous êtes juriste. Est-ce que les règles communes, le droit commun aux pays de l'Union n'est pas en train de se défaire, en train de reculer? Je ne veux pas employer le mot de zone de non-droit, mais en tout cas, désormais, une zone d'affaiblissement du droit en Europe.
Je ne crois pas. Il me semble que l'Europe s'est vraiment construite par le droit. L'Europe est ce qu'elle est parce que le droit y a contribué. D'ailleurs, les juges, je crois que...
Et là, l'Italie l'Europe dit « je fais ce que je veux ».
Eh bien, cela demande une reconstruction et c'est cette exigence d'extrême urgence à laquelle nous devons faire face.
Alors dites,
je ne perds pas espoir de ce point de vue-là, vraiment.
Alors dites-nous s'il y aura ou pas une loi fake news. Il n'y a pas de date qui a été arrêtée pour finir d'examiner la chose. Il va y en avoir une ou pas ? Donnez-nous des faits, là.
Des faits vérifiables.
Oui, vérifiables, oui, et non pas manipulés.
Les faits vérifiables, ce sont ceux qui ont été déposés devant le Parlement.
Mais il y a une date pour le retour ou pas de la loi devant le Parlement, non ?
À ce stade, je ne crois pas, mais vous le savez, le Parlement actuellement est en train de construire son calendrier qui est extrêmement complexe. Ce n'est pas une façon de ne pas vous répondre. Je dis simplement que nous avons d'une part une multitude de textes de loi à examiner et d'autre part le projet de révision constitutionnelle qui vient s'intercaler. Et donc nous sommes actuellement devant un embouteillage, je crois que le mot est juste, qui est lié à l'activité gouvernementale parlementaire. Et donc de ce point de vue-là, nous avons des incertitudes sur le calendrier. Alors pour répondre à votre question, le projet de loi va revenir, bien sûr.
S'il ne peut pas donner, s'il ou si elle ne peut pas donner d'indication dans les cas particuliers, le ou la garde des Sceaux peut donner des consignes générales. Jean-Jacques Urvoas, votre prédécesseur, avait mis l'accent sur la répression des violences intrafamiliales. N'était-il pas plus efficace sur la question de la manipulation de l'information de recommander au procureur de se servir de la loi de 1881 plutôt que d'en faire une autre qui fait l'unanimité contre elle?
Alors, ce qui
plus efficace, ma question est là.
Sur l'efficacité. Je tiens à dire que la loi qui a été proposée, elle vise une période extrêmement restreinte, n'est-ce pas ? Il s'agit des campagnes électorales. Donc c'est un temps restreint. Et sur ce temps restreint, pour éviter les manipulations que l'on a pu constater, aussi bien aux États-Unis qu'en France en fin de campagne électorale présidentielle dernière, on a pensé qu'il était opportun de donner aux juges le pouvoir d'agir rapidement en référé, c'est-à-dire pas au fond, pour suspendre des informations qui, par leur caractère massif, le trouble qu'elles pouvaient susciter, pouvaient dévoyer l'exercice de la démocratie.
Mais donner instruction aux procureurs en leur disant « loi de 1881, attention, suivez ça », non ?
L'idée était suivre, c'est une chose. L'idée était de permettre aux juges de suspendre la diffusion de ces informations manifestement erronées. Et ça ne nous a pas semblé complètement absurde au regard de ce qui s'était passé et au regard de ce que contient la loi 1881 qui déjà comporte la notion de fausse information, de fausse nouvelle.
Avant de donner la parole à Léa Salamé, deux questions. Jamel Begal.
Excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier, je suis comme Rousseau là. L'idée n'est pas évidemment de porter atteinte à la liberté d'expression. On distingue clairement les opinions personnelles, etc. L'idée, c'est vraiment d'assurer la démocratie dans un moment singulier de son expression qui est la période électorale.
Jamel Begal, vétéran du djihad en France, présenté comme le mentor des frères Kouachi, est libérable d'ici au 5 août. Il est en prison en France. Va-t-il sortir de prison ?
Alors, d'une part, il va sortir de prison, sa peine sera terminée. Et comme vous le savez, nous souhaitons qu'il puisse retourner en Algérie. Il a une interdiction de territoire français qui a été judiciairement prononcée, donc il doit repartir en Algérie. Nous travaillons avec les Algériens.
Ça n'est pas acquis, là.
Ça n'est pas acquis au moment où je vous parle, pour qu'ils accueillent Begal, qui n'a plus la nationalité française, puisque je crois qu'il y a une déchéance de nationalité prononcée à son encontre.
Si l'Algérie n'en veut pas, qu'est-ce qui se passe ?
Il sera assigné à résidence.
Donc il sortira malgré tout de prison ?
Il sera assigné à résidence, c'est-à-dire surveillé, assigné à résidence.
Parce qu'il y a 2 ans, jour pour jour, c'était l'attentat de Magnanville commis par un djihadiste qui s'est sorti de prison après avoir purgé sa peine et qui a pu commettre malgré tout un attentat. Ce qui a dysfonctionné pour Magnanville fonctionnera-t-il pour Jamel Begal?
Ce qui importe, c'est que ces personnes-là soient sous une surveillance constante. Donc soit il repart en Algérie, ce que nous souhaitons, soit il sera assigné à résidence, c'est-à-dire sous une surveillance constante.
La ministre de la Justice, garde des Sceaux, Nicole Belloubet, l'invitée de France Inter, 8h32. Léa Salamé.
Pardon de vous faire préciser, Madame la Ministre, mais c'est vrai que c'est un sujet qui inquiète. Alors, il ne faut pas être irrationnel face à ça. Mais Nicolas Demorand parlait de Jamel Begal, qui est considéré comme un des terroristes les plus dangereux. Là, vous êtes en train de nous dire au micro que si l'Algérie ne l'accepte pas, il reste assigné à résidence en France. Il y a 450 détenus qui vont sortir bientôt de prison. Et vous vous dites qu'on va mieux les surveiller, mais est-ce que c'est suffisant?
Alors d'abord, Madame Salamé, les personnes dont vous parlez ne sont pas du tout toutes du même niveau de dangerosité. Il faut distinguer, si vous me le permettez, à minima 2 catégories de personnes. D'une part, les personnes qui ont été condamnées et incarcérées parce qu'elles sont reconnues comme étant des terroristes islamistes, et d'autre part, des personnes qui sont engagées dans une radicalisation qui peut être de niveau extrêmement variable. Donc, nous avons une vingtaine de personnes qui vont sortir l'année prochaine, cette année et l'année prochaine, et qui sont considérées, qui ont été condamnées pour terrorisme islamiste, et elles, ces personnes-là font l'objet d'un suivi extrêmement précis.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors concrètement, cela veut dire, j'ai eu l'occasion de m'exprimer ainsi, il y a 2 mots qui s'appliquent à ces personnes lorsque leur peine est exécutée, c'est l'anticipation et le suivi. L'anticipation au sens où, avant qu'elles sortent de détention, elles sont suivies soit par un juge d'application des peines, soit par les services de renseignement pénitentiaire, enfin pas soit d'ailleurs, et par les services de renseignement pénitentiaire qui, pour chacune de ces personnes, établit une fiche extrêmement précis, c'est pas sur un confetti, ce sont des notes de plusieurs pages qui sont ensuite transmises aux services qui les prennent en charge à la sortie. Et donc ça, c'est pour les personnes.
Ce sera suffisant, Madame la Ministre, pour que s'ils veulent commettre un attentat, ils puissent ne pas le faire.
Je crois que tout est mis en œuvre. Nous sommes vraiment arc-boutés sur le suivi de ces personnes, parce que notre volonté de protection de nos concitoyens est totale, et je pense que la manière dont ils sont pris en charge, avec la création récente, comme cela a été annoncé, d'une cellule nationale qui pourra centraliser les renseignements autour des personnes les plus dangereuses, je crois que c'est une réponse qui est efficace.
2-3 questions d'actualité, si vous le voulez bien. L'ouverture ces dernières semaines d'établissements qui vendent des produits à base de cannabis vous préoccupe? Doivent-ils être fermés, ces établissements?
Oui, c'est une préoccupation, puisque la loi, vous le savez, n'autorise pas, évidemment, l'utilisation et l'usage de cannabis. Donc oui, c'est une préoccupation. Il faut voir comment nous allons traiter ce sujet.
C'est-à-dire que vous allez fermer ces coffee shops, notamment à Paris?
Je n'ai pas, moi, le pouvoir de les fermer, mais en tout cas, je vais regarder ce qu'il faut faire avec mon collègue de l'Intérieur.
On en est où de la législation pour les consommateurs de cannabis? Vous confirmez ce matin que ce sera une amende de 300 euros?
Je confirme que cela reste un délit. Je confirme que ce délit sera sanctionné par une contravention, de sorte qu'il y ait une façon à la fois plus simple d'organiser la répression, mais en même temps plus efficace.
Un collectif signé par une grande partie des rédactions françaises, France Télévisions, Radio France, Le Point, L'Obs, Les Échos et plusieurs ONG et syndicats signent ce matin une lettre au président de la République pour qu'il revienne sur la loi secret des affaires qui sera définitivement votée demain. Attaque sans précédent, selon eux, contre le droit d'informer. Cette loi qui permettra aux entreprises de poursuivre quiconque révélera des informations qui ne lui plaisent pas. Les lanceurs d'alerte seront systématiquement traînés en justice, les journalistes également.
Pas du tout, absolument pas.
Je vous dis ce que dit cette tribune, oui. On ne pourra plus révéler des scandales, ou plus difficilement en tout cas, comme le Mediator, les Panama Papers ou le scandale UBS. Une pétition a été signée par 550 000 personnes contre cette loi. Pourquoi vous n'y revenez pas?
Nous n'y revenons pas parce que nous considérons que cette loi est une loi d'équilibre, c'est-à-dire qu'à la fois, elle va protéger le secret des affaires pour les entreprises, ce dont parfois elles ont besoin pour assurer leur développement. Mais en même temps, il y a des exceptions, des dérogations qui sont clairement exprimées clairement exprimé autour des lanceurs d'alerte, autour des droits syndicaux, enfin pardon, autour de la liberté des syndicats, etc. Donc il y a des exceptions qui sont clairement précisées. Et en plus, cette loi introduit une sanction contre toute personne qui déclencherait abusivement un contentieux contre les lanceurs d'alerte, contre les journalistes, etc. Donc nous protégeons, par une amende qui sera inédite, la liberté d'expression, nous protégeons aussi le secret des affaires. Il me semble que ce texte est équilibré, et j'avais eu d'ailleurs l'occasion de recevoir Reporters sans frontières qui comprenait cette logique, qui souhaitait juste que l'amende soit maintenue.
Il est 8h37, direction le Standard d'Inter, 01 45 24 7000. Bonjour Raphaël.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors voilà, je voulais poser une question à la ministre. Qu'est-ce qu'elle pense du fait que François Longereau, le président de la commission des contrôles de campagne, a appris pendant le même temps que les citoyens que Emmanuel Macron avait bénéficié de ristournes assez conséquentes pendant la campagne, et que cette même personne, François Longereau, a bénéficié d'une augmentation de salaire assez substantielle, il me semble que c'est 57%, vous me confirmerez, à la suite de cette élection.
Merci pour cette question, Raphaël. Nicole Belloubet vous répond.
Oui, alors je ne connais pas le salaire de M. Longereau et en l'occurrence, peu importe par rapport à la question de notre auditeur, je crois que, moi je me place sur le plan du droit, la Commission nationale des comptes de campagne a vérifié l'ensemble des comptes des candidats.
Est-ce qu'elle a bien fait son travail? C'est ça aussi la question de Raphaël.
Écoutez, il n'y a pas de raison de penser qu'elle a mal fait son travail. Et par ailleurs, le Conseil constitutionnel, lorsque cela a été nécessaire, a également été saisi. Donc il me semble que l'ensemble des procédures juridiques ont été mises en œuvre. Et là-dessus, je n'ai pas d'autres commentaires à faire.
L'association Anticor dépose une plainte visant les comptes de campagne de Macron, Le Pen, Mélenchon, Hamon.
Oui, je lis ce matin la
dépêche. L'association attend que la justice dise clairement si les surfacturations ou sous-facturations sont légales. La question est légitime, non?
La question, encore une fois, elle sera traitée par les autorités compétentes. Donc moi, je n'ai pas du tout de choses à dire là-dessus. Je dis simplement que les comptes ont déjà été vérifiés.
Donc le dossier est clos.
Non, je ne dis pas que le dossier est clos. Si Anticor dépose une plainte, nous verrons ce qu'il y a, on verra ce qui sera fait derrière. Mais encore une fois, les comptes ont été vérifiés à plusieurs reprises et donc il n'y a pas de raison de mettre en doute le travail qui a été fait par les autorités habilitées pour faire cela.
Alors, il y a énormément de questions au Standard. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Madame.
Je voulais poser deux questions. J'avais admiré le courage politique de Madame Belloubet lorsque, rectrice de l'Académie de Toulouse, elle avait démissionné en estimant que les moyens que lui accordait le gouvernement de droite à l'époque ne lui permettaient pas d'assurer ses missions. J'étais à l'époque chef d'établissement dans l'Académie et je voudrais savoir si elle estime que l'actuel président de la République lui donne les moyens d'accomplir ses missions. Lorsque je lis la presse, on peut se poser la question. Deuxième chose, Madame Belloubet se revendique comme une femme de gauche, élue à gauche à Toulouse et au conseil régional Midi-Pyrénées à l'époque. Et je voudrais savoir si les derniers avatars de la politique de Monsieur Macron, tel l'Aquarius, répondent à ses convictions de femme de gauche.
Merci Martine pour cette question. Nicole Belloubet vous répond.
Deux questions, deux réponses. Sur le premier point, sur les moyens, je réponds sur mon champ de compétences, c'est-à-dire sur la justice. Je crois que l'effort que fait le gouvernement dans un contexte de contraintes budgétaires pour la justice, c'est un effort tout à fait considérable, puisque en 5 ans, et je le présenterai dans le cadre de la loi de programmation, nous aurons une augmentation budgétaire de plus d'1,7 milliard et 6 500 créations d'emplois, ce qui est tout à fait inédit. Donc de ce point de vue-là, je regarde avec beaucoup vraiment d'intérêt l'effort budgétaire qui est consenti. Sur le second point, c'est-à-dire la situation globale que traverse le gouvernement, la conduite de la politique publique, je dois dire que ce gouvernement me semble-t-il, a beaucoup d'énergie et que je souhaite continuer à participer à cette énergie déployée. Par ailleurs, la solidarité gouvernementale est un principe qui, pour moi, est intangible.
Pour votre information, Nicole Belloubet, énormément de réactions sur les propos que vous avez tenus concernant l'Aquarius, la position de l'Espagne, la position de la Corse sur les cartes de géographie.
Donc, il faut peut-être que je revoie ma géographie.
Voilà, je crois en tout cas, vous aurez beaucoup de personnes qui vont vous y aider sur Twitter et sur l'application de France Inter. Merci en tout cas d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Il est 8h42, le carrefour du 7-9 est à suivre.